Gloire à Dieu. Nous avions mis un terme au terme, hein, nous avions mis un terme au thème étudié dans la congrégation depuis quelques mois déjà, en l'occurrence, la thématique du royaume de Dieu. Le Seigneur nous a permis de regarder ce thème avec vous. Nous avions mis un terme, hein, quand nous nous séparions, quand nous nous quittions juste avant la pause. Et nous voici avec un autre thème que le Seigneur nous donne. Nous reviendrons à l'étude de livres, hein. Nous reviendrons à l'étude de livres. C'est tout simplement, Dieu nous appelle à varier notre méthode. Hein, nos méthodes d'étude de la parole. J'ai déjà fait donner un aperçu de cela déjà dans des conversations avec des bien-aimés de l'Église. On peut faire une étude thématique, on étudie un thème. Ça peut être, par exemple, le royaume de Dieu, ça peut être l'Église, ça peut être Satan, ça peut être Jésus-Christ. Ça peut être la communion fraternelle, voyez-vous, des exemples de thèmes. Ça peut être la sainteté, c'est ça des thématiques, quand on parle de thématiques, OK? On peut faire aussi une étude de livres, oui, on expose un livre, comme je l'ai fait pour Galates, Éphésiens, Jacques, etc., OK? 1 et 2 Corinthiens, etc. Donc, c'est comme ça qu'on étudie la Bible. On peut faire une étude biographique. On choisit d'étudier la vie de David, la vie de Paul, la vie de Samuel, la vie de Esther, la vie de qui d'autre encore? Nommez-en, nommez-les. Voyez-vous, j'essaie juste de vous montrer un peu comment ça marche. Et en matière d'enseignement de la Bible, de la parole de Dieu ou d'études bibliques. Okay? Et on peut aussi étudier des chapitres, des morceaux choisis. Hein? C'est toutes des manières différentes d'étudier la Bible. Et chacune de ces méthodes d'étude de la Bible a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est la raison pour laquelle les enseignants de la Bible, les pasteurs, ont intérêt à diversifier leurs méthodes. Ce qu'une méthode ne nous permet pas d'aller chercher, telle autre méthode va nous permettre d'aller le chercher. C'est un peu ça, le but de varier les méthodes. C'est comme quand vous mangez, vous variez vos nourritures pour avoir toutes sortes de vitamines. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre encore. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Je sais que c'est un peu théorique ce que je vous dis là, mais vous êtes capable de l'apprécier, de le comprendre. Alors, c'était pour vous dire que aujourd'hui nous sommes encore en étude thématique. Nous allons étudier aujourd'hui un thème qui est très familier à nous, à l'Église, aux hommes et aux femmes de Dieu. C'est le thème de l'argent. Voyez-vous, aussi simple que cela, l'argent. Okay? Nous avons terminé avec le royaume de Dieu, maintenant c'est l'argent. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'argent à partir de ce sujet qui dit ce que la Bible enseigne au sujet de l'argent. Bon, habituellement, on ne parle pas de l'argent en Église. On parle de l'argent à l'extérieur de l'Église plus souvent que dans l'Église, alors que Jésus a parlé de l'argent à beaucoup, 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 beaucoup. Donc, dans l'Église, l'argent est un sujet tabou, mais dans le monde, ce n'est pas tabou. Et dans la Bible, ce n'est pas tabou. C'est un sujet qui est très, très, très récurrent dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle tout enfant de Dieu, tout homme et femme de Dieu, eh bien, ne croit pas. Eh bien, considérer ce sujet comme étant tabou. Donc, nous allons parler de l'argent. Pourquoi? Peut-être toi, deux, trois ou quatre études, on verra, suivant le Seigneur, la manière dont le Seigneur va nous diriger là-dedans. Mais voilà, c'est le premier thème avec lequel nous allons commencer, nous allons redémarrer l'étude biblique de l'année 2024. Pourquoi je sens que le Seigneur me met à cœur de parler d'argent dans la congrégation en étude biblique? J'aurais pu le faire du haut de la chaire, en enseignement dominical. Mais c'est parce que Jésus parle beaucoup de l'argent. Je viens de le dire là. Prenez une concordance biblique et puis comptez les versets où la Bible parle d'argent, ça sera presque impossible à compter. Donc, il y a une raison à cela. Si Dieu le fait, donc c'est important pour Dieu. Premièrement. Deuxièmement, l'enseignement biblique au sujet de l'argent, c'est un canal de bénédiction pour les enfants de Dieu. Je répète, l'enseignement biblique au sujet de l'argent, c'est un moyen de bénédiction de Dieu pour l'Église, pour les enfants de Dieu, pour les hommes et les femmes qui servent le Seigneur. Et lorsque l'enseignement de Jésus, de l'Écriture, au sujet de la Bible est appliqué, c'est une occasion de bénédiction. La vie d'obéissance à l'enseignement biblique concernant de l'argent amène la bénédiction. Donc, moi, comme votre serviteur, que Dieu m'appelle à, que Dieu appelle à vous servir, en vous enseignant la parole, je m'en voudrais de ne pas écouter la voix de l'Esprit pour vous enseigner au sujet de l'argent, parce que si je ne le fais pas, je vous prive d'une occasion de bénédiction. Je vous prive d'une occasion d'être béni. Je veux m'assurer de pouvoir vous enseigner tout le conseil de Dieu. Et pour moi, même s'il y a des sujets tabous, moi, ce n'est pas pour moi. Voyez-vous, donc, et je n'ai pas à parler ce que je veux parler. J'ai à parler ce que Dieu m'appelle à parler. Donc, et c'est bien important. Donc, c'est une occasion de bénédiction. Quand on a une bonne connaissance, une bonne compréhension de la vision biblique de l'argent, eh bien, on est positionné, hein, et si, dans la grâce du Seigneur, en appliquant cet enseignement-là, on est positionné pour être béni, croyez-moi. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle on veut considérer ce sujet avec vous dans le Seigneur. Voilà. Alors, l'argent, c'est le thème. La thématique, le sujet pour aujourd'hui, ce que la Bible enseigne au sujet de l'argent. Nous pouvons partir avec Agé chapitre 2, versets 7 à 8, pour commencer. Agé chapitre 2, versets 7 à 8. Que dit ce passage de l'Écriture? Je vous lis Agé 2, versets 7 à 8. Voici ce que dit la parole en ce passage. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. C'est Dieu qui parle. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi. Gloire à notre Dieu. Hein? L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Béni soit l'Éternel. La Bible, la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs, est très claire dans son enseignement au sujet de l'argent. Parmi tout ce que la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne au sujet de l'argent, elle nous apprend, elle nous dit, elle nous informe que tout argent appartient à l'Éternel, suivant Agé 2, entre autres passages de la parole de Dieu, versets 7 à 8. Pour ce soir, n'oubliez pas le sujet dit ce que la Bible enseigne au sujet de l'argent. La toute première chose que nous devons retenir dans le cadre de l'étude de cette thématique, c'est que l'argent appartient à Dieu. Les richesses appartiennent à Dieu. Les avoirs, les possessions appartiennent à Dieu. Le texte dit, L'argent est à moi et l'or est à moi. Le contexte de cette affirmation du Seigneur, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, suggère que notre Dieu parle ici de toutes les nations de la terre. Il dit au verset 7, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Tout l'or, frères et sœurs, mes bien-aimés, et l'argent du monde appartiennent à notre Dieu. Et c'est tant mieux. Dans Deutéronome, chapitre 8, les versets 17 à 18 nous révèlent une vérité identique ou presque. Il est écrit dans Deutéronome 8, versets 17 à 18, ceci, à savoir, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi, verset 18, Deutéronome 8, de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Remarquez bien l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes. Tout l'argent appartient à Dieu et à Dieu seul, et Dieu donne aux hommes, à vous, à moi, à d'autres avant nous, à d'autres après nous, la capacité nécessaire de gagner ce qui appartient à Dieu, à la lumière plus précisément de Deutéronome, versets 7 à 18. En tant qu'ultime possesseur, en tant qu'ultime propriétaire, en tant qu'ultime dépositaire de toutes les richesses du monde, Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa miséricorde, permet à l'homme, en lui donnant la capacité nécessaire, d'acquérir des richesses. Mais ultimement, la richesse appartient à Dieu, mes frères et mes sœurs. Le Nouveau Testament fait écho à cette vérité de l'Ancien Testament, trouvée dans Agé 2, versets 7 à 8, et dans Deutéronome 8, versets 17 à 18, lorsque l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, verset chapitre 4, le verset 7, demande par une question rhétorique, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors, il pose la question d'une manière de dire que, eh bien, tout ce que tu as, tu l'as reçu. Il ne t'appartient pas. Et quand il dit tu l'as reçu, il parle d'un don de Dieu, d'une réception, eh bien, de la part de Dieu, frères et sœurs. En posant cette question rhétorique, l'apôtre Paul dit que l'argent, comme d'autres dons que les gens à qui il s'adressait, appartient à Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés, mais que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa compassion, a confié cet argent-là aux frères et sœurs à qui il s'adressait, frères et sœurs, mes bien-aimés. Dire que Dieu nous donne tout ce que nous avons, vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que peuple sauvé, revient à dire, frères et sœurs, mes bien-aimés, que notre Dieu est un Dieu généreux. Hein? C'est un Dieu qui donne. C'est un Dieu de générosité. C'est un Dieu de libéralité. Notre Dieu exerce la libéralité envers ses enfants. Nous avons déjà enseigné qu'il est bon envers ceux qui ne le connaissent pas. À plus forte raison, est-il bon? Est-il généreux? Est-il libéral? Est-il donnant à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui sont ses enfants? Notre Dieu est un Dieu généreux. Il donne ce qu'il a. Il confie ce qu'il a à nous. Il nous confie ce qu'il a. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17, nous lisons, frères et sœurs, mes bien-aimés, que Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17, nous enseigne, hein, il est question de ce que la Bible enseigne à propos de l'argent, n'oublions pas, il n'est pas question de m'écarter du sujet, c'est promis dans le Seigneur et par sa grâce, ok? Donc, un autre enseignement, que nous voyons que dans 1 Timothée 6, le verset 17, c'est que Dieu nous donne toutes choses, y compris l'argent, y compris la richesse, pour que nous en jouissions. Gloire à notre Dieu. Cela souligne la générosité, la libéralité de notre Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 2, le verset 7, la Bible parle du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, en disant que le pays d'Israël, hein, le territoire d'Israël, le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Voilà, cela souligne la générosité de notre Dieu, la largesse, hein, de notre Dieu. Hein. Le pays, frères et sœurs, le territoire d'Israël est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Si notre Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés, use de bonté, de grâce et de miséricorde envers nous pour nous donner de l'argent, sachons ce soir qu'il a un but précis à le faire. Il a un but précis en le faisant. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Notre Dieu est sage. Il ne fait jamais rien pour rien. Il a toujours une raison, hein, qui guide ses actions. Hein? Le but que Dieu a en étant généreux envers ses enfants, envers son peuple, c'est que son peuple le glorifie par son argent. La Bible, on est dans ce que la Bible enseigne. On y est là. Hein? Dieu exerce la compassion et la générosité envers son peuple, envers ses enfants, en lui donnant de l'argent. Eh bien, parce que Dieu veut que son peuple le glorifie par son argent. Ah! Ah, glorifier Dieu par son argent. Oui, ça existe. Hein? Ça existe. Que Dieu poursuit ce but-là. Cela revient à dire, frères et sœurs, mes bien-aimés, que Dieu tient son enfant, Dieu tient le fidèle, Dieu tient le chrétien. Il y a un bruit de fond. Dieu tient chaque chrétien responsable pour la manière dont il administre hein, ou la manière dont il gère son argent. Ah. Et cette responsabilité-là n'est pas à prendre à la légère, frères et sœurs, mes bien-aimés. En ce 17 janvier 2024, du Seigneur, Dieu m'a chargé de vous rappeler ce que vous savez déjà. Il m'a chargé de me rappeler ce que je sais déjà, à savoir que tout argent lui appartient, toute richesse lui appartient. Et en sa qualité de Dieu généreux, en sa qualité de Dieu libéral, de Dieu donnant, il me donne cet argent-là et il s'attend en retour que je gère, que je administre cet argent-là d'une manière qui le glorifie, d'une manière qui lui plaise, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et en plus, il s'attend à ce que je prenne, en ma qualité d'enfant de Dieu, en ma qualité d'enfant de Dieu, il s'attend à ce que je prenne cette responsabilité-là au sérieux. Il ne veut pas que je prenne cette responsabilité-là à la légère. Frères et sœurs, mes bien-aimés, cela revient à dire également que Dieu s'attend à ce que nous soyons disposés à mettre cet argent à son service. Dieu s'attend à ce que nous mettions cet argent-là à son service. Pas parce que Dieu est pauvre, il veut être enrichi par moi, par André, par Pierre, par Jacques, par X, Y, Z, mais parce que il veut que par là je sois béni. Il donne cela comme canal de bénédiction. Il donne ça comme moyen de bénédiction. Si un enfant de Dieu, si un homme de Dieu, si une femme de Dieu, si un fidèle, si un chrétien ne donne pas à Dieu de son argent, ne met pas son argent au service de Dieu, Dieu ne sera pas appauvri. De la même manière, si un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chrétien, une chrétienne met son argent à la disposition de Dieu, Dieu ne sera pas enrichi. Et alors, pourquoi Dieu le demande? Puisque, pasteur, tu viens de dire que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu le demande pour ma propre bénédiction, pour la propre bénédiction de ma famille. C'est pour ça que Dieu me le demande. Mais il n'en a pas besoin, car l'or et l'argent lui appartiennent, car le monde lui appartiennent, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Quant à lui, il n'en a pas besoin. Il ne sera pas plus riche si je lui en donne. Il ne sera pas pauvre si je ne lui en donne pas. Il me le demande parce que il a décidé souverainement que ça soit un des canaux de bénédiction du chrétien. C'est la seule raison pour laquelle il me le demande. Frères et sœurs, mes bien-aimés, nous aurons le temps d'y revenir. Parce que normalement, ça, c'est juste une parenthèse. On n'est pas encore là à ce que je suis en train de dire là. Ce n'est qu'une parenthèse. La prise de conscience de la responsabilité que l'enfant de Dieu a de mettre ses sous au service de Dieu n'est pas acquise par tous les chrétiens, frères et sœurs. Vous pouvez être conscientisé à l'oratoire sur ce sujet-là, sur cette question-là, et dire, ah ben là, tout le monde le sait ça, tout le monde le fait, tout le monde en est conscient. Détrompez-vous. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu dans le monde qui ne comprennent pas cette vérité-là. Ils savent qu'ils ne doivent pas être versés dans l'adultère. Ils savent qu'ils ne doivent pas être versés dans la magie. Ils savent qu'ils ne doivent pas être versés dans la médisance, dans la calomnie, dans le mensonge. Ils savent qu'ils ne doivent pas être versés dans pavé de l'Église. Mais ils ne le savent pas trop bien, ou alors ils ne comprennent pas trop bien,
la profondeur de cette responsabilité chrétienne consistant à mettre leurs sous au service de Dieu, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas parce que c'est clair pour vous à l'oratoire, probablement, que vous devez croire que c'est clair pour tout le monde, frères et sœurs, mes bien-aimés. Il y a des gens, des chrétiens, qui disent que s'ils gagnaient le gros lot, ils paieraient la dîme. Ils aideraient telle ou telle organisation caritative ou charitable. Ils aideraient telle ou telle personne en Haïti, en Afrique ou bien en Amérique latine, nommez-les. S'ils gagnaient le gros lot, certains chrétiens disent qu'ils soutiendraient telle ou telle mission, telle ou telle œuvre, telle ou telle église, telle ou telle orphelinat, etc. Vous avez entendu déjà des chrétiens dire ça. Ce que ces chrétiens qui disent là, qui disent cela, oublient ou bien ne comprennent pas, frères et sœurs, c'est que la question n'est pas de savoir ce soir, en ce mercredi 17 janvier 2024, la question n'est pas de savoir ce qu'ils feraient s'ils avaient 1 million ou 2 millions ou 3 milliards. La question n'est pas là pour Dieu. Dans le service, la question n'est pas là. Dans la Bible, pour la Bible, suivant l'enseignement biblique, la question n'est pas de savoir si tu avais des milliards, ce que tu en ferais ou tu ferais avec. La question est plutôt de savoir, pour ces chrétiens-là, ce qu'ils font du peu qu'ils ont dans leur portefeuille. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, les versets 9 à 10, il est écrit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié de l'argent. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Autrement dit, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, plus vous avez de l'argent, plus nous avons de l'argent, vous et moi, plus nous serons enclins, plus nous aurons envie, plus nous sentirons l'importance, la nécessité de parcourir les centres d'achat, de parcourir les magasins, ce qui est légitime d'ailleurs, de parcourir les restaurants. Autrement dit, plus nous avons de l'argent, c'est plus nous aurons besoin d'argent, plus nous achèterons, frères et sœurs. En sorte que l'oratoire, peuple du Seigneur, si un enfant de Dieu, si un chrétien, une chrétienne, un homme de Dieu, une femme de Dieu, ne donne pas à Dieu son argent quand il en a peu, il y a fort à parier, frères et sœurs, mes bien-aimés, qu'il n'en donnera pas plus à Dieu quand il en aura des millions. Celui qui donnera à Dieu quand il sera millionnaire ou milliardaire, c'est celui qui donne à Dieu quand il a 10 sous 20, sous 30, sous 40 sous, 1 dollar, 2 dollars, frères et sœurs, mes bien-aimés. Le Christ n'a-t-il pas dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, frères et sœurs. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Frères et sœurs, selon Luc chapitre 6, le verset 10. C'est bien dommage, nous avons un bruit de fond qui est vraiment désagréable. Et j'ai fait des appels, mais cette personne-là n'a pas entendu notre appel, malheureusement. Frères et sœurs, la question n'est pas d'en avoir plus pour donner plus à notre Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie éternelle, qui prend soin de nous jour après jour, qui nous a créés, qui nous a donné le souffle de vie. La question est de savoir ce que nous faisons. Je sais que ce n'est pas votre question, ce n'est pas votre sujet à vous, dans le sens où ce n'est pas vous qui le dites, mais je donne un exemple. Ce qu'il nous faut, la question est de savoir ce que nous faisons avec ce que nous avons. N'oublions pas cet enseignement-là, et cet enseignement-là vient de la Bible aussi, frères et sœurs, car, n'oubliez pas, il est question de ce que la Bible enseigne au sujet de l'argent. Pas oublier ça, ok? On est toujours dans le sujet, ok? L'oratoire, c'est pour nous. Maintenant, peuple du Seigneur, que dit la Bible de l'amour de l'argent? Ce que la Bible dit de l'amour de l'argent fait partie de ce que la Bible enseigne au sujet de l'argent. On est toujours là-dedans, on est dans le sujet. Que dit la Bible au sujet de l'amour de l'argent? N'oubliez pas, où est-ce qu'on s'en va? D'où on est parti et où on s'en va? On a commencé par enseigner qu'une des choses que la Bible enseigne, c'est que l'argent appartient à Dieu. Un. Et deux, Dieu nous donne l'argent dans sa générosité pour que nous le glorifions avec cet argent. OK? Maintenant, donc on avance. Un deuxième point de l'enseignement de ce soir, c'est qu'enseigne la Bible au sujet de l'amour de l'argent. Posons-nous la question suivante. Doit-on posséder de l'argent? Parce qu'il y a des gens qui font le vœu de la pauvreté, soi-disant. Est-ce que c'est ça que la Bible enseigne réellement? Est-ce que toi et moi, nous sommes obligés de faire le vœu de pauvreté? Bon, la réponse, c'est non. Doit-on posséder de l'argent? La réponse est oui. Doit-on faire le vœu de pauvreté? La réponse est faux. C'est une hérésie. Ce n'est pas biblique. OK? Maintenant, avons-nous besoin d'argent? Hein? La réponse est oui. Il y en a qui prétendent qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Donc, non, la Bible enseigne que nous en avons besoin. J'en ai besoin, je ne sais pas pour vous. OK? Fait qu'on règle ça tout de suite. Faut-il aimer l'argent? Faut-il aimer l'argent? Non. Ah, celui-là, c'est non. OK? Celui-là, c'est non. Est-ce que j'en ai besoin? Oui. Faut-il que j'en aie? Oui. C'est biblique. Dieu l'enseigne. Maintenant, est-ce que je dois l'aimer? Ah, la réponse est non. Je n'ai pas à aimer l'argent. Hein, je n'ai pas. Hein, l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, la femme de Dieu n'a pas à aimer l'argent. Je n'ai pas à aimer l'argent. Pourquoi? Eh bien, parce que d'après 1 Timothée 6, le verset 10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ah. Il ne faut pas aimer l'argent. L'amour de l'argent est source de péché. Ah. Il ne faut non plus mettre sa confiance dans l'argent. Ah. Pasteur, tu avais dit que tu allais enseigner ce que la Bible enseigne au sujet de l'argent. Ben oui, on est là-dedans. Je suis en train de vous dire que la Bible enseigne de ne pas aimer l'argent. On est dans le sujet. La Bible enseigne de ne pas mettre notre confiance en l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent. Il ne faut pas mettre sa confiance dans l'argent, car mettre sa confiance en l'argent, c'est de l'idolâtrie. Ah, OK. Et vous et moi, nous savons que l'idolâtrie, c'est un péché que Dieu punit sévèrement, frères et sœurs, mes bien-aimés. Ceux qui aiment l'argent sont à contre-courant de l'enseignement biblique au sujet de l'argent. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Sans doute, vous en avez besoin. Mais il ne faut pas l'aimer. Que Dieu me préserve d'aimer l'argent. Que Dieu vous préserve d'aimer l'argent. Frères et sœurs, pourquoi? Mais parce que c'est à partir de ce moment-là que beaucoup d'autres péchés vont naître dans le cœur de l'homme, de l'enfant de Dieu, de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. L'apôtre Paul conseillait le pasteur Timothée en disant, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance, ici espérance est synonyme de confiance, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. 1 Timothée 6, le verset 17, frères et sœurs. Si même le sentiment de sécurité d'un chrétien dépend de l'argent que Dieu lui a donné, c'est-à-dire s'il met sa confiance dans l'argent pour sa sécurité, c'est déjà un problème, frères et sœurs. Mon sentiment de sécurité ne doit pas se baser sur si j'ai de l'argent ou pas aujourd'hui, ou ce mois-ci, ou cette année. Mon sentiment de sécurité en tant que chrétien, c'est ça, mettre sa confiance en l'argent. C'est que je me sens en sécurité quand j'ai de l'argent, mais non. Est-ce que ça m'est utile quand j'en ai? Ben oui, je serais hypocrite de soutenir le contraire. Mais je ne peux pas me sentir heureux et bien en tant qu'enfant de Dieu parce que j'ai de l'argent. Si je le fais, je mets ma confiance en l'argent, frères et sœurs. Le Christ nous a demandé de ne pas servir de maître à la fois. Je ne peux pas mettre ma confiance en Dieu et la mettre en l'argent. Ça ne marche pas. Je dois avoir un seul maître, c'est Dieu. Quand j'ai Dieu, je me sens en sécurité. Quand je n'ai pas Dieu, je ne me sens pas en sécurité, pas l'argent. En sorte que je peux avoir de l'argent et ne pas être en sécurité, même si j'ai un sentiment de sécurité, je ne le suis pas en réalité. De la même manière, je peux ne pas avoir de l'argent et éprouver un réel et profond sentiment de sécurité parce que Dieu est tout, mais l'argent n'est pas tout. Et alors, lorsque le Seigneur, dans sa grâce, nous préserve d'aimer l'argent et d'y mettre notre confiance, nous faisons un grand pas sur le plan du développement chrétien, sur le plan de la maturité chrétienne, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. De plus, l'oratoire, peuple du Seigneur, l'amour de l'argent crée toutes sortes de problèmes. Il y a des couples chrétiens qui seraient encore ensemble aujourd'hui, n'eût été l'argent, l'oratoire. Il y a beaucoup de divorces qui trouvent leur origine dans l'argent. L'amour de l'argent, la confiance dans l'argent est source de problèmes, de têtes chargées, de tracas. Ce n'est pas une affaire de Satan, Satan, Satan tout le temps. Des fois, Satan ne parle pas même moi, chrétien. Ce n'est pas de Satan, c'était l'argent, frère. Ce n'était pas Satan, c'était l'argent, sœur. Ce n'était pas Satan, frère et pasteur. C'était l'argent, pasteur. Ce n'était pas Satan, fidèle. C'est l'argent. L'argent, quand on y met sa confiance, quand on l'aime, est source de tracas, est source de division, est source de problèmes. Que le Seigneur nous en préserve. Tous ensemble, continue de nous en préserver à l'oratoire, frères et sœurs. La Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Voilà de quoi votre serviteur parle quand il dit que l'amour de l'argent est source de problèmes, de tracas. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Je ne vous mens pas. Le Saint-Esprit de Dieu ne vous ment pas ce soir en vous disant, frères et sœurs, mes bien-aimés, que l'amour de l'argent et y mettre sa confiance est source de problème. 1 Timothée 6, verset 9 que je viens de vous lire là, ok? Ceux qui veulent s'enrichir, ce n'est pas ceux qui travaillent, non, pour s'enrichir, qui font du commerce, qui font des placements, non? Ce n'est pas ça, non? C'est plutôt ceux qui veulent s'enrichir à tout prix. Ceux qui veulent s'enrichir illicitement, hein? D'une manière contraire à la parole de Dieu. Frères et sœurs, mes bien-aimés, vous rappelez-vous l'oratoire? Pour de l'argent, Achan a provoqué la défaite de l'armée d'Israël et la mort s'est abattue sur lui et sa famille, selon Josué chapitre 7, le verset 1 à 26. Vous rappelez-vous l'oratoire quand nous disons que l'amour de l'argent et le fait de mettre sa confiance en l'argent est source de problèmes? À part le cas d'Achan, il y en a beaucoup d'autres cas. Vous rappelez-vous l'oratoire que pour de l'argent, Balaam a péché et a voulu maudire le peuple de Dieu à la lumière de Nombre 22, versets 15 à 41. Vous rappelez-vous l'oratoire quand nous vous disons que l'amour de l'argent et y mettre sa confiance est source de problème? Vous rappelez-vous l'oratoire, peuple du Seigneur, que Delila a trahi Samson pour de l'argent et a entraîné le massacre de milliers de personnes à la lumière de Juges 16? Pour de l'argent, Anania et Saphira, acte 5, frères et sœurs, sont devenus les premiers chrétiens à afficher une double vie et Dieu les a fait mourir. Pour de l'argent, l'oratoire, peuple du Seigneur, Judas a vendu Jésus. Frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, que serions-nous prêts à donner pour avoir de l'argent ce soir? Que serions-nous prêts à donner pour avoir de l'argent ce soir? Vous savez, on dit que chaque homme a son prix. Ça a l'air que le gouvernement de François Legault comprend cela très bien. Chaque homme a son prix. Quelqu'un a dit que lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Une manière de signaler que certaines personnes sont prêtes à mentir, ou bien ils sont prêtes, elles sont prêtes à tout pour de l'argent. Et de ce nombre, il y a des chrétiens. Ce n'est pas votre cas. Dieu vous en préserve l'oratoire. Mais ça existe. De ce nombre, il y a des chrétiens. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à bousiller leur foyer, leur famille, leur ministère. Beaucoup de pasteurs seraient encore dans le ministère, n'eût été l'argent, n'eût été l'amour de l'argent, n'eût été la confiance dans l'argent, frères et sœurs. Beaucoup de sœurs conserveraient encore leur mari, beaucoup de frères conserveraient encore leur épouse, n'eût été l'amour et la confiance dans l'argent. Dieu vous en préserve, mais ça existe, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle Dieu veut nous rappeler ces choses que nous savons déjà. On n'est jamais trop fort pour apprendre ces choses de Dieu, frères et sœurs. Lorsque quelqu'un aime l'argent ou met sa confiance en l'argent, savez quoi? Satan le sait. Satan le sait. C'est pas juste, mais oui, Satan le sait. Et en le sachant, ou alors le sachant, vous savez, Satan essaye de tromper cette personne-là à partir de l'argent, par l'argent. Ce pourrait être vrai aussi si c'est pour un autre péché. Le péché que quelqu'un pratique, Satan le sait. Et il utilise ce péché-là pour traîner la personne dans la boue, n'eût été la grâce de Dieu. Satan connaît nos points faibles, frères et sœurs bien-aimés. Et Dieu sait que Satan réussit une fois de temps en temps à tromper des gens facilement en raison de leur confiance en l'argent et en raison de leur amour de l'argent, frères et sœurs bien-aimés. Lorsque nous avons cette brèche, ce trou vide dans notre vie, Satan utilise cette brèche-là pour entrer dans notre vie, pour empêcher que nous visions une vie chrétienne de victoire, pour empêcher que nos prières soient exaucées, pour empêcher que nous soyons de bons chrétiens, de meilleurs chrétiens, comme nous voulons l'être, frères et sœurs, mes bien-aimés. Il y a un autre danger à signaler avec l'amour de l'argent en regard de l'enseignement biblique sur l'argent, ok? Ça ne vient pas de moi. Je ne vous parle pas d'opinion ici. Hein? Je vous parle de ce que l'Écriture dit. C'est qu'il pousse les gens à oublier Dieu. Hein? L'amour de l'argent pousse les gens à oublier Dieu, à oublier le vœu qu'ils ont fait dans le mariage, à oublier le mariage, à oublier l'amour qu'ils avaient pour leur épouse, à oublier l'amour qu'ils avaient pour leur mari, et peut-être même à oublier l'amour qu'ils avaient pour leur enfant ou pour leurs parents, ou pour leurs amis, pourquoi pas, ou pour leurs frères et sœurs dans la congrégation, pourquoi pas. C'est là un autre danger qu'il faut signaler à propos de l'argent, frères et sœurs. C'est que l'argent, ou l'amour de l'argent, ou la confiance en l'argent, amène les gens, pousse les gens à oublier Dieu, frères et sœurs. Rappelons-nous Salomon. Souvenons-nous de Salomon, frères et sœurs. Salomon fut un homme immensément riche. Je ne vous apprends rien en vous disant cela, frères et sœurs. Vous connaissez votre Bible, l'oratoire. Salomon était un homme immensément riche qui a été pris au piège de ses richesses tristement, dramatiquement, tragiquement, frères et sœurs. Salomon voulait toujours plus de richesses. Salomon épousa des femmes étrangères afin d'acquérir de plus en plus de trésors. C'est ainsi que Salomon conduit Israël à l'idolâtrie et il souilla sa propre vie, frères et sœurs, mes bien-aimés. Incidemment, l'oratoire, peuple du Seigneur, lorsque Agur, cet homme de Dieu qui a écrit le chapitre 30 du livre des Proverbes, se rend compte de ce qui arrivait à Salomon, il analysait le cas de Salomon, la vie de Salomon, la fin de vie, la fin du ministère de Salomon. Agur, qui a écrit Proverbe 30, eh bien, Agur dit à Dieu, il demande à Dieu en prière, en Proverbe 30, versets 8 à 9, « Ne me donne, Seigneur, ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Voyez-vous pourquoi au verset 9, « De peur que dans l'abondance, je ne te renie pas et ne dise qui est l'Éternel ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu, frères et sœurs. » Et Job, le patriarche, cet homme de Dieu que nous aimons tous, vous et moi, par sa vie d'exemplarité, frères et sœurs, par sa vie de justice, par sa vie de persévérance et d'attachement à Dieu et à sa parole, Job nous dira, frères et sœurs, mes bien-aimés, « Et je ne puis rien devant sa majesté, parlant de la majesté divine, si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. » Ah, voyez-vous, l'autre danger que j'ai signalé à propos de l'argent, c'est que ça motive, ça pousse à renier Dieu, frères et sœurs. Incidemment, dans Proverbe 11, le verset 28, il est écrit, « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais mettez votre confiance en Dieu et vous fleurirez, frères et sœurs, mes bien-aimés. » Il vient d'être 20h53 minutes. Oui, c'est le temps de m'arrêter. Je veux simplement récapituler ce que la démarche qui vient d'être initié ce soir dans la grâce du Seigneur et dans la puissance de l'Esprit. Et avant que je puisse vous céder la parole, si vous avez quelques suggestions, quelques partages à faire, pourrez-nous nous édifier, m'édifier, m'apprendre des choses, je vais le faire pour 3 minutes. Je veux simplement prendre le temps de résumer et histoire de terminer la session de ce soir de la bonne manière. À savoir, nous venons d'initier une deuxième série d'études thématiques dans la congrégation et la toute première série porte sur le thème de l'argent. Et pour ce soir, l'aspect qui a été traité de cette thématique, c'est ce que la Bible enseigne au sujet de l'argent. Et ce que la Bible enseigne au sujet de l'argent, d'abord, c'est que l'argent est à Dieu. Dieu est le propriétaire ultime de tout argent. Et deuxièmement, Dieu nous le donne dans sa générosité afin que nous le glorifions par notre argent. Pas parce qu'il veut être enrichi par notre argent, il n'en a pas besoin. C'est plutôt parce que dans sa souveraineté, il a décidé éternellement que ça soit un moyen de bénédiction pour vous et moi, lorsque nous le servons avec notre argent. Et ce chemin faisant, le Saint-Esprit de Dieu, par ma voix, par mon truchement, a attiré votre attention sur le fait que l'amour de l'argent n'est pas biblique. Dieu nous met en garde dans sa parole contre l'amour de l'argent et contre le fait de mettre notre confiance en l'argent, parce que l'amour de l'argent est source de tracas, de problèmes, de misère, de difficultés, de divisions, et aussi parce que ça amène d'autres péchés dans la vie du croyant. On a regardé le cas de Achan, on a regardé le cas de Delila, le cas de Judas, pour illustrer le fait que l'amour de l'argent est problématique quant à la vie chrétienne. Eh bien, frères et sœurs, nous pouvons nous arrêter là pour ce soir. Je vous laisse, il est 20h59, je vous laisse. Si vous avez quelques questions ou quelques suggestions ou quelques partages, quelques expériences aussi à partager, vous pouvez le faire, puis nous reviendrons, si le Seigneur nous prête vie, mercredi prochain pour la suite des choses. Soyez bénis dans la grâce du Seigneur. Amen.